Quel bonheur que de vous retrouver, Irit Azoulay. Bonjour.
Bonjour Didier. Quel plaisir. Ça fait longtemps.
Ça faisait trop longtemps, bien sûr. Une chanson, une histoire. Nos auditeurs connaissent bien cette chronique maintenant. Et donc, aujourd'hui, Yuki, je suis ravi parce que vous m'avez demandé, tiens, t'as pas envie,
bah oui.
Qu'est-ce qui te ferait plaisir, etc. J'ai dit, écoute, moi, vieux de la vieille, boomer que je suis, j'adore la voix d'Yoram Gaon.
Je l'adore aussi, mais c'est pour vous. Spécial Didier, Yoram Gaon.
Ça, c'est gentil. Alors, que nous amenez-vous aujourd'hui?
Tsion Tamati. Ça, c'est
de
un classique.
De quoi est-il question?
Il s'agit d'un poème, en fait, qui est le poème le plus connu de Menachem Mendel Dolitsky, un écrivain et poète juif russe du 19e siècle, qui a été mis en musique par Heyman Cohen, comme vous, Didier.
Ah ouais, pourtant
avec
rien
un
à voir.
K.
Oui, comme moi.
Le titre original, c'est « Im Eshkacher », si je t'oublie. Mais au fil des années, ce chant est devenu connu, d'après ses paroles d'ouverture, sous le nom de Tsion Tamati. Tsion, ma bien-aimée.
Ben, vous savez quoi? Avant d'aller plus loin, on va voir à quoi ça ressemble.
Tzion etamati, tzion chemdati, lachen afshi merachok umiyah, tishkach yemini, im eshkach ech yafati, adet et arbor kivri, עלי פיה ציון חמתי ציון חמדתי לכן אשי מרחוב ומינה תשכח ימיני אם אשכח איך יפתי עדת את הרבור קירי עלי פיה.
Sa voix,
il
c'est
est magnifique,
sa voix.
Ah, il n'y a rien à dire. Mais je ne sais pas si vous avez ressenti, vous Didier, qui ne connaissez pas tout à fait bien l'hébreu, il y a un rythme particulier dans ce qu'il chante là, qui est adapté à la prononciation yiddish, pas yiddish, dans laquelle l'accent tonique se place sur la première ou l'avant-dernière syllabe.
Ah oui, non,
il
pas
a dit
du tout.
Tzion, et au lieu de tzion, normalement, c'est beivrit en même tzion. Tamati, au lieu de tamati, chemdati.
Après, comme en italien, en fait.
Eh ben, plus ou moins, mais plus, un peu plus plutôt comme les langues slaves, mm-hmm. et notamment comme le hongrois, par exemple, le Hanouka. En hébreu, c'est Hanouka, et en yiddish, on dit Chanuk. On
d'accord.
met l'accent sur le premier syllabe. Ou bien génial. Shabbat, ils disent Shabbos.
C'est ça que j'aime avec vous, c'est que j'apprends plein de choses.
Et l'hébreu moderne, en fait, va suivre l'accentuation dite séfarade, qui, elle, se place à la fin du mot comme c'était le plus proche de l'origine biblique. Donc, c'est ce qu'on a gardé aujourd'hui.
D'accord. Et on retrouve d'ailleurs cette intonation dans beaucoup de chansons de l'époque de la Renaissance de la langue hébraïque. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on sache un petit peu c'est quoi l'époque de la Renaissance de la langue hébraïque. Même la tikva, je pense, selon se chante d'ailleurs dans cette accentuation, si je ne me trompe pas.
Exact, bien sûr. On dit aussi kolod balevav au lieu de balevav, penima au lieu de penima, yehudi, yehudi, nefesh yehudi, homia au lieu de homia. Donc oui, en fait, la renaissance de la langue hébraïque, puisque la langue hébraïque était entre guillemets morte, mais plutôt en sommeil pendant 2000 ans, pas tout à fait, mais elle n'était pas vraiment parlée. Mm-hmm. Et vers le 18e siècle déjà, on commence à sentir les vagues de la renaissance de la langue hébraïque. Et c'est surtout dans le 19e siècle que des gens ont vraiment pris les choses en main pour raviver cette langue et aussi la rendre vivante dans le sens écrire des choses qui ne sont pas que bibliques ou prières, etc.
Bien sûr. Et puis j'imagine aussi que l'arrivée de l'État d'Israël...
Oui, mais c'était déjà bien avant. Absolument.
Et les Juifs venant du monde entier, et pour cause, bien sûr, parfois pour de bonnes, mais aussi pour de très horribles raisons... Il a bien fallu trouver un langage commun.
Justement, on va en parler.
Ah, ben pardon,
ça vient.
Alors, vous savez quoi? Chaque chose en son temps.
Oui.
On va d'abord s'intéresser à ce titre, Tsion Tamati, ou Tsion Tamati, je ne sais plus trop. Quel est le sens de ce poème, Yoram?
Alors, je vais commencer, c'est tout court, je vais commencer par vous donner la traduction de ce poème. Ça veut dire « Sion m'a bien aimé, Sion m'a désiré ». Loin de toi, mon cœur ne bat que pour toi. Que ma main droite périsse si je t'oublie, ma jolie, tant que ma tombe ne se referme sur moi. Je ne t'oublierai jamais, Sillon, ma désirée. Tu es mon espérance tant que je vivrai. Quand l'oubli m'emportera, toi seul tu subsisteras. L'épitaphe sur ma tombe, tu seras gravé, Sillon. Eh bien, dans ce chant, Menachem Mendel Dolitsky aborde deux axes fondamentaux de la vie humaine. D'une part, la mémoire versus l'oubli, et d'autre part, la vie versus la mort. En apparence, il existerait un parallélisme entre la vie et la mémoire d'un côté, puis de l'autre, entre la mort et l'oubli. Toutefois, le poète conteste ce parallélisme en soutenant que la terre de Sion, elle, ne tombera jamais dans l'oubli du peuple juif, même après la mort. Les écrivains qui ont entrepris de ressusciter l'hébreu, justement, après 2000 ans de sommeil, disposaient de la Bible comme source de référence majeure. Il y avait d'autres écrits, mais il s'inspirait beaucoup de la Bible, et c'est pourquoi ce poème sera totalement inspiré des écrits bibliques. Dans la première ligne, le poète utilise des termes d'affection empruntés au Cantique des Cantiques, « Tamati, ma bien-aimée, Chemdati, ma désirée ». Ensuite, il fait référence au serment du souvenir, issu du livre des psaumes, qui aurait été écrit par le roi David, « Imeshkachech, Yerushalayim, Tishkach, Yemini »« Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma main droite m'oublie ». Le poète proclame que son serment restera en vigueur jusqu'à sa mort, une idée exprimée par un autre verset des psaumes, « Ve'al te'etar alai be'er piha » mais ça je laisse. Et puis, je voulais aussi signaler que Menachem Mendel Dolitsky va composer des inscriptions poétiques pour les pierres tombales, pour subsister. Inspiré de cette activité professionnelle secondaire, il va faire un magnifique jeu de mots dans la dernière phrase entre « Tzion » et « Tziyun » qui s'écrit exactement de la même façon. « Ve Tziyun at Tzion tehi alei kivri » Sillon, tu seras gravé sur ma tombe comme une épitaphe. Tziyun, c'est une sorte de, c'est un marquage en fait. Mm-hmm. Letzayen, c'est le verbe qui est la racine en fait du mot tziyon, c'est tzadik yud nun, ce qui veut dire marquer, indiquer, signaliser. On trouve le mot tziyun dans le livre de Jérémie. Hatzivilach tziyunim similach tamrurim. Dans sa prophétie de consolation, Jérémie s'adresse au peuple d'Israël qui avait été exilé en lui disant: pose des repères, place des jalons. Jérémie console les Bnei Israël en leur disant de préparer leur chemin du retour vers la terre d'Israël alors qu'ils étaient en train de sortir de la terre et d'être exilés, en déposant des balises pour ne pas se perdre en chemin, un peu comme le petit poussé, mais pas en déposant des cailloux entre Jérusalem et Babylone, mais plutôt en préservant leur identité grâce à certains signes distinctifs, en suivant le droit chemin, c'est-à-dire les commandements de la Torah, et en se souvenant que Dieu leur a promis la rédemption, le retour vers la terre d'Israël. Les tzionim, les marquages ou les repères, sont à la fois des signes physiques et spirituels pour retrouver la voie, V-O-I-E, de Dieu, ainsi que la terre promise. Selon la loi juive, lorsqu'un objet physique porte un signe distinctif, s'il se perd, le marquage permet de le rendre à son propriétaire. Selon vous, Didier, qui est le propriétaire du peuple juif?
Je dirais Dieu, a priori.
Mais bien sûr.
Donc je comprends mieux maintenant pourquoi Dieu est à louer.
Ouais.
Donc, pardonnez-moi.
C'est une diversion.
Un peu iconoclaste, mais bon. Menachem Mendel Dolitsky, dans ce poème, parle de Tzion, bien sûr, mais ne mentionne pas le nom de Jérusalem. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre Sion et Jérusalem?
Mais en fait, il n'y a pas de différence si on regarde géographiquement. Sion est l'une des 70 appellations de la ville de Jérusalem. Son premier usage se trouve dans le livre de Samuel, en référence à la forteresse de Sion, qui a été conquise par le roi David des mains des Jébuséens, une peuplade cananéenne. Vailkod David et Metsudat Tzion, hi ir David. Ceci étant, dit le nom de Sion, qui désignait la forteresse de Jérusalem, devient au fil du temps un surnom pour le pays de Juda, pour la terre d'Israël tout entière, ainsi que pour le peuple juif. Aujourd'hui, la cité de David est un site archéologique majeur. Les fouilles ont révélé d'importants vestiges remontant à l'époque davidique. Quant au mont Sion, tel que vous le connaissez aujourd'hui, il n'est pas celui qui était désigné initialement. À l'origine, le mont Sion indique le mont Moria, sur lequel fut construit le temple de Jérusalem. mais à l'époque byzantine. Une colline située au sud de la vieille ville de Jérusalem a été identifiée erronément comme étant le mont Sion. Et cette appellation est restée en usage jusqu'à ce jour.
D'accord.
D'autres passages font référence à la présence de Dieu dans le temple sacré de Jérusalem, notamment dans le livre de Isaïe, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel, qui mitzionnent, etc. Ce verset exprime l'idée que la loi émane de Jérusalem pour guider le monde entier. Il s'agit de la législation, mais aussi de la sagesse spirituelle. L'idée que la loi vienne de Sion fait référence au Sanhédrin, la cour suprême, qui siégeait à l'époque dans le temple de Jérusalem. Ce verset est souvent interprété dans un contexte messianique, indiquant qu'un jour, toutes les nations reconnaîtront Jérusalem comme source de justice et de vérité.
Bon, alors, on va un petit peu ouvrir la boîte de Pandore, d'une certaine manière, parce que ça fait effectivement des millénaires qu'on attend le Messie. Mm-hmm. Mais en attendant, on a connu bien des horreurs, et pas plus tard qu'il y a un an et demi. Mm-hmm. Et cette chanson est écrite à une époque marquée par des pogroms contre les Juifs dans l'Empire russe, dont Dilitsky était le témoin oculaire, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. D'autres horreurs ont eu lieu à cette époque-là. Mm-hmm. On est dans le 19e siècle. Et après avoir été témoin direct de certains pogroms, Menachem Mendel Dolitsky comprend que les Juifs n'ont pas d'avenir en Europe. Intellectuel du mouvement de la Haskalah, il rejoint alors le mouvement Chovevei Tzion, les amants de Sion, prônant le retour en terre d'Israël et la renaissance de l'hébreu comme langue nationale. Il enseigne l'hébreu et écrit des histoires et poèmes sur la souffrance des Juifs et la nostalgie de Sion. En 1891, après l'expulsion des Juifs de Moscou, débute la première vague d'immigration en Palestine ottomane. Pourtant, Dolitsky choisit d'émigrer aux États-Unis, justifiant ironiquement son choix en disant que s'il vivait à Sion, il ne pourrait plus éprouver de nostalgie pour Sion. Logique.
Donc c'est vrai qu'en même temps, si tous les Juifs du monde se retrouvent à Jérusalem, bah, le sionisme disparaîtra par la même occasion.
Mais oui, absolument. Mais voilà.
Même logique.
Mais lui était en fait du genre à croire qu'il y en avait tout plein, et d'ailleurs ils n'avaient pas tout à fait tort, que la langue va faire de sorte que le pays va naître. Mmh. Sans la langue hébraïque et sans que les Juifs ne parlent tous la même langue, et notamment l'hébreu, eh ben il n'y aura pas d'Israël. Et c'est ça, c'est avec ça qu'il est venu. Donc, il allait enseigner l'hébreu partout. C'était aussi une mission en soi qui était très importante. Et malgré ses écrits en hébreu, et puis après en yiddish aussi, il a peine à survivre. Et il va terminer sa vie dans la misère à Los Angeles en 1931. Sans jamais avoir réalisé son rêve de retour en Israël.
Bah, on peut alors presque tracer un parallèle entre notre poète du jour et, et Rabbi de Lubavitch.
Eh bah ben oui, certainement. Mis à part leur prénom commun, Menachem Mendel, tous les deux s'appelaient Menachem Mendel, on avait Menachem Mendel Schneerson et Menachem Mendel Dolitsky. Ils sont tous les deux nés dans des familles juives religieuses, dans l'Empire russe, à un demi-siècle d'intervalle. Ils se sont apparemment jamais rencontrés, même s'ils ont vécu quelques années en même temps, mais ils étaient dans des mondes différents idéologiquement. Tous les deux vivaient l'antisémitisme et ils ont trouvé tous les deux refuge aux États-Unis, mais leurs visions divergeront radicalement. Dolitsky, marqué par les pogroms, s'éloignera de la religion et soutiendra le sionisme politique. Alors que Schneerson, témoin de la Shoah, diffusera la pensée chassidique et refusera le sionisme laïque, affirmant que l'État d'Israël ne pouvait mener à la rédemption sans Torah ni Messie. Toutefois, contrairement aux ultra-orthodoxes anti-sionistes radicaux, le rabbi de Lubavitch reconnaissait l'importance de l'État d'Israël, tout en le considérant comme un projet juif incomplet s'il est dépourvu de la mission, de la dimension spirituelle.
Oui, clairement. Et vous vouliez passer justement de ces deux Menachem Mendel, hein, Schneerson et Dolitsky, à un certain Mordechai Manuel.
Oui.
Expliquez un peu.
Eh ben, celui-là, je sais pas, vous avez déjà entendu ce nom? Mordechai Manuel Noach.
Non.
Ça vous dit quelque chose?
Rien.
Eh ben, justement, c'est un homme extraordinaire qui était très peu connu. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Il est arrivé à rien trop tôt par rapport à son temps. Et en fait, c'était un avant-gardiste. Je me demande souvent comment aurait tourné l'histoire de notre peuple si on avait suivi son projet à l'époque. Eh bien lui, il est né, figurez-vous, en 1785. Mordechai Manuel Noach, il était diplomate américain, dramaturge et journaliste, né à Philadelphie, figurez-vous. Avant même Herzl et le mouvement sioniste, il rêvait d'un refuge pour les Juifs persécutés, déjà, en 1811. Noach est nommé consul des États-Unis à Riga. Mais après une visite au cours de laquelle il se heurte à l'antisémitisme du gouvernement local, il refuse le poste. Puis, en 1813, il sera consul des États-Unis à Tunis. Il va libérer des otages américains capturés par le souverain algérien en s'appuyant sur le principe juif du rachat des captifs, Pidyon HaShvuim. Son action sera critiquée pour son coût élevé, parce qu'il a dû payer très cher en rançon, et il est rappelé à New York sous prétexte que sa religion entravait sa mission diplomatique. Convaincu qu'il faut un refuge immédiat pour les Juifs, il achète l'île de Grand Island, près des chutes de Niagara. Il partageait en fait la croyance que certains Indiens d'Amérique descendaient des tribus perdues d'Israël. Et Mordechai Emmanuel Noach va nommer cette île Ararat, d'après le lieu de repos de l'Arche de Noé. Et il organisera carrément une cérémonie impressionnante pour poser la première pierre du nouveau foyer juif. Il va se vêtir d'une robe violette et se couronner juge d'Israël et diffuser l'oratorio de Judas, le Maccabée, dont on a parlé avec Hava Narima. Mais c'était un petit peu foufou et faute de soutien, son projet va échouer. Et il va finir par revendre l'île d'Ararat à un marchand de bois local pour un prix dérisoire. Puis, en 1845, dans son discours sur le retour des Juifs, il appelle l'Amérique à prendre l'initiative de la réinstallation des Juifs en terre d'Israël, faisant ainsi de lui un précurseur du sionisme moderne.
Oui, peut-être même que c'est lui qui aura inspiré Theodor Herzl, d'une certaine manière, puisque c'est à partir du mot, Sion, que va naître le terme sionisme, si je m'abuse.
Bah, tout à fait. Le terme sionisme a été inventé, pas par Herzl comme certains le croient, mais il a été inventé en 1890 par Nathan Birnbaum, dans un article qu'il a écrit qui s'intitulait « Die Selbstemanzipation », l'auto-émancipation, mais c'est Theodor Herzl qui va lui donner une dimension politique. En 1896, Herzl publie « L'État des Juifs », Der Judenstaat, puis organise le premier congrès sioniste à Bâle. Dès les années 1880, des Juifs commencent à émigrer en Palestine ottomane, fondant des colonies agricoles, des moshavs.
Le sionisme,
moshavot. Oui, mais il y en a qui diraient moshavim. Le sionisme prend ensuite forme sous le mandat britannique, menant à la création de l'État d'Israël en 1948. Et voilà que on est en 2025. Et le terme sionisme, malheureusement, est utilisé à tort et à travers. Mais j'ai décidé de ne pas développer cette problématique. L'actualité, je vous la laisse.
De chronique, hein, déjà.
Je laisse l'actualité aux journalistes qui le font très bien dans cette radio. Et je vais plutôt, j'espère seulement avoir réussi quand même à replacer un petit peu les jalons et les marquages.
Le Tzionei
derrière. Voilà, le Tzion Tzion.
Bah, comme d'habitude, justement, vous me le disiez hors antenne, il existe plusieurs versions de cette chanson. Mais on va quand même s'écouter la version Yoram Gaon. Évidemment.
Oui, mais attention, même celle de Yoram Gaon, il en avait fait une autre dans les années justement 1980, qui elle comportait des erreurs, alors que lui est très 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 méticuleux sur la langue hébraïque, parce que c'est un texte un peu difficile. Et puis il a réenregistré en 2007. C'est celle-là qu'il faut prendre.
Il n'y a finalement que bientôt 20 ans, 18 ans qu'il a enregistré ce morceau Yoram Gaon. Immortel pour le coup, hein, Yoram Gaon.
Ça, on lui souhaite longue vie.
Mais à mon avis, il ne doit pas avoir loin des 80 ans facile.
Ah non, plus, parce que moi j'ai été à son concert en Israël quand il avait 82. Il a eu 80 ans pendant le Covid.
D'accord.
Et il a reporté son concert des 80 ans quand il avait déjà 82. Et là, j'étais là. C'était magnifique, il est génial. Et je lui souhaite jusqu'à 120 ans.
Ah bah oui, bah nous aussi. Et qu'il chante encore et toujours. Tzion Tamati, c'était une chanson, une histoire d'aujourd'hui.
Merci,
on se quitte
Didier.
Avec Yoram Gaon et cette chanson. Merci infiniment, Irit.
Merci,
à la prochaine fois.
Merci, à bientôt, Didier.
Tzion tamati, Tzion chemdati, lachen nafshi merachok umiya, tishkach yemini, אם אשכח איך יפתי עד את הרבור קירי עליי פיה ציון חמתי ציון חמדתי לך נפשי ברחוב ומינה תשכח ימיני אם אשכח איך יפתי עדת את הרבור קירי עליי פיה לא אשכח ציון חמדתי את כל עוד איכי תאכלתי וסברי ואת הכל אשכח עד שארית נשמעתי וציון את ציון תהי עלי קירי ציון חמתי ציון חמדתי לכי נפשי מרחוק ומיקה תשכח ימיני אם אשכח את יפתי עדת את הרבור קירי עליי פיה ציון חמתי ציון חמדתי לכי נפשי מרחוק ומיד תשכח ימיני אם אשכח את יפתי עדת את הרבור קירי עליי פיה ציון חמתי